France Musique.
No pasarán, André Malraux et la guerre d'Espagne. Elle s'appelle Dolores Ibarruri Gómez, l'histoire a retenu la passionnaria. Militante, femme politique et figure emblématique de la guerre d'Espagne, elle prononce son célèbre « No pasarán » lors de son discours au ministère de l'Intérieur le 19 juillet 1936. La guerre civile d'Espagne vient d'éclater. « El no pasarán » devient dès lors le slogan des républicains contre les nationalistes. En février 1936, le Front populaire gagne les élections. Il effraie la droite espagnole, en particulier les monarchistes et les catholiques. Son arrivée au pouvoir cristallise alors les angoisses de la droite et provoque des éclats de violence à travers tout le pays. Cette victoire électorale est une première étape décisive vers le coup d'État nationaliste qui engendre 3 ans de guerre civile entre partisans de la République et nationalistes menés par le général Franco. Le 17 juillet, les troupes du Maroc espagnol se soulèvent sous le commandement du général. Les soulèvements militaires concernent bientôt l'Espagne tout entière. Le 18 juillet au matin, dans son appartement madrilène, Luis Buñuel, le cinéaste et futur auteur du film « Belle de jour », est réveillé par une explosion. Un avion républicain attaque la caserne de la Montaña pour déloger les fascistes qui s'y trouvent. Le cinéaste se lève et court à son balcon. Dans la rue, courent des ouvriers en armes. Le peuple marche jusqu'à la Puerta del Sol. Il réclame des armes. Les haut-parleurs de la Radio Union annoncent que le gouvernement accepte la déclaration de guerre des fascistes au peuple espagnol. Les armes sont enfin distribuées. Au cri de « No pasarán », ils ne passeront pas, débute la première bataille de Madrid. Pour la plus grande joie de Luis Buñuel, qui suit les opérations depuis son balcon, ils ne passèrent pas ce jour-là. Quand cette guerre civile éclate, André Malraux a 33 ans. C'est un révolté plus qu'un révolutionnaire. Il est l'écrivain de La condition humaine qui a obtenu le prix Goncourt en 1933. De réunions publiques en meeting, aux côtés d'André Gide, Malraux s'affirme comme un des plus fascinants compagnons de route du communisme. Héros de toutes les causes internationales, il se lance alors à corps perdu dans l'engagement de la République espagnole harcelée par le fascisme. Le 21 juillet, au lendemain de la révolte de Barcelone, il s'envole avec son épouse Clara pour Madrid. Ils arrivent dans une ville dont personne ne sait en France si elle est aux mains des républicains ou des nationalistes. Les franquistes ne disposent pas encore des escadrilles que Mussolini et Hitler s'apprêtent à leur livrer. Mais leur supériorité au sol est telle que seule une force aérienne pourra les empêcher de s'emparer bientôt de Madrid. Malraux repart alors avec une responsabilité à sa hauteur, trouver en France des avions pour défendre et soutenir la liberté. Dans la soirée du 27 juillet, André Malraux, accompagné du nouvel ambassadeur d'Espagne, atterrit sur la base de Villacoublay. Yvon Delbos, alors ministre des Affaires étrangères, est présent, ainsi que quelques membres du gouvernement. Dans les jours qui suivent, les journaux de droite et d'extrême droite accusent le gouvernement d'avoir utilisé un avion militaire pour envoyer Malraux, le rouge, chez les bolcheviks espagnols. André Malraux ne se préoccupe pas des rumeurs de la presse. Il a plus important à faire. Il rencontre au plus vite les responsables français favorables à la cause espagnole, Léo Lagrange, Pierre Cotte. À cette heure, l'armée espagnole est restée fidèle au gouvernement. Mais en face, on aligne 30 000 soldats de l'armée d'Afrique. La marine est républicaine, les carabiniers fascistes, la garde civile et l'armée de l'air partagées, les gardes d'assaut loyalistes. Le gouvernement dispose de la moitié des fusils, du tiers des armes automatiques et des pièces d'artillerie, de 12 chars contre 20 dans l'autre camp. Sa supériorité aérienne n'est pas décisive. Il est clair qu'au jour où André Malraux atterrit en France, rien ne peut encore donner l'avantage aux nationalistes ou aux républicains. C'est l'envoi d'armes depuis l'étranger qui tranchera, si l'étranger décide d'intervenir. André Malraux va alors remuer ciel et terre pour obtenir un soutien officiel de la France. Mais les dés sont déjà jetés. Le 19 juillet, alors que le Premier ministre espagnol envoie un télégramme de détresse à Léon Blum, Franco dépêche son représentant auprès du Duce. Deux jours plus tard, grâce au câble, il demande à Hitler des avions pour franchir le détroit de Gibraltar. Ces communications sont rendues possibles grâce à sa très gracieuse majesté qui ordonne aux Britanniques stationnés à Gibraltar de mettre les lignes téléphoniques anglaises à la disposition des fascistes espagnols. Dès lors, ils peuvent communiquer facilement avec les fascistes italiens et allemands. Quelques jours plus tard, les Anglais prônent la non-intervention. De son côté, Paris hésite. Le 20 juillet, Léon Blum convoque Yvon Delbos et Édouard Daladier, alors ministre de la guerre. Les deux hommes sont radicaux et plutôt favorables à l'envoi d'armes. Le lendemain, les Anglais s'inquiètent de la réaction de la France et militent pour la non-intervention. Le 22, les deux gouvernements se réunissent à Londres. Le 25, la position officielle du gouvernement est arrêtée. Paris ne livrera pas d'armes à l'Espagne, mais ne s'oppose pas aux transactions privées portant sur du matériel autre que militaire. C'est ainsi que la France fut vidée de la plupart de ses avions de tourisme. Le ministre de l'air français, Pierre Cotte, soutenu par son chef de cabinet Jean Moulin, constitue dès lors un véritable réseau pour contrevenir aux dispositions officielles. Malraux obtient une vingtaine d'appareils, plus une dizaine d'autres qui pourront rallier l'Espagne un peu plus tard. Le gouvernement français ferme les yeux. C'est avec ces avions qu'il forme et commande l'escadrille de combattants étrangers avec plusieurs mercenaires. Baptisée Espagna, elle est l'une des principales forces de l'armée républicaine. Malraux s'appuie alors sur les communistes, qui sont les seuls à admettre sa politique de mercenaires. Son escadrille, avec l'aide des soviétiques, est donc la seule à s'opposer à l'aviation fasciste, particulièrement à Medellín et à Teruel. Non loin de là, à Grenade, un homme est tiré hors de sa cellule. Malraux le connaît. Il claque des dents, il est terrorisé. Il est le plus grand poète espagnol du moment. Federico García Lorca a été arrêté deux jours plus tôt. García Lorca a quitté Madrid pour rejoindre Grenade, sa ville natale. Il se croit en sécurité, il refuse de se cacher. Sans doute a-t-il oublié sa réputation. Homosexuel, ami des Rouges, depuis l'avènement de la République, il n'hésite pas à multiplier les écrits et les prises de position contre la droite, contre la bourgeoisie nationale, pour le renouveau d'un théâtre populaire. Le compositeur Manuel de Falla tente d'intercéder en la faveur de son ami. Sans doute les phalangistes n'ont-ils pas oublié qu'ils le forcèrent de composer pour eux. Mais le 17 août 1936, ils sont venus chercher Federico García Lorca. Montés dans la voiture, ils l'ont conduit au pied de la Sierra de Alfacar. « Vous n'allez pas me tuer. » « Si, ils vont le tuer. » Quand Salvador Dali apprend la mort de son ami d'enfance, il s'écrit seulement « Olé !» Ainsi salue-t-on en Espagne la mort d'un taureau courageux. Peu à peu, tous les appareils sont abattus par les chasseurs d'Hitler et les bombardiers de Mussolini. C'est la Légion Condor, envoyée par Hitler le 26 avril 1937, qui détruit intégralement le village de Guernica au Pays Basque. Resté tristement célèbre par l'immortelle toile de Picasso. Madrid creuse ses tranchées. Madrid élève ses barricades. Les haut-parleurs publics chantent l'international. Sur les ondes, la passionaria appelle à la guerre et à la résistance. Elle est aimée des femmes pour le combat qu'elles mènent en leur nom, dans un pays où la Vierge constitue le modèle absolu de la féminité.
Ay, los aires llevan mentira.
Dès 1936, un grand nombre de volontaires internationaux arrivent sur le sol espagnol. Ces femmes et ces hommes veulent combattre le fascisme. Ils veulent lutter aux côtés des forces républicaines, lutter contre le plus grand danger pour la démocratie dans le monde. En 1946, George Orwell décrit le conflit espagnol comme l'un des événements les plus tragiques et les plus sordides que l'Europe moderne ait connu. André Malraux nous laisse l'espoir.
Que no llamarme por María, llamarme por Soleá. Porque no nacen de marea, María tan desgraciada. Que no llamarme por María, no llamarme por María, llamarme por Soleá.
Bueno,
Eran dos vivos crespones la luz que daban tus ojos. Era arrogante y morena, su cara como la pena que desgarra la entraña. Y llevaba las pestañas de la propia Macarena, caballo mejor portado, mejor atalajao. Ningún andaluz lo sueña, ni traje mejor cortado que el que lucía su dueña, y era de plata el herraje.
À réécouter sur francemusique.fr.